pour vous, voici Page après page avec Gisèle. Une rencontre intimiste avec un auteur.
Sur les chemins de terre, sur les arbres écorchés, je t'attendais dans mes prières, dans le feu des bruyères, des soleils de janvier. Je t'attendais,
je t'attendais,
je t'attendais. Et les églises se souviennent des tout premiers je t'aime. Qui courait à perdre haleine, boire à l'eau des fontaines, leur tout premier baiser. Et les moulins se rappellent la blancheur des dentelles des mariés de Vendée. Qui couraient dans les ruelles, escaladaient les échelles pour s'aimer dans un grenier.
Je parlais de toi au nuage, aux oiseaux de passage, à mes poupées d'enfant. Je t'attendais les nuits d'orage, dans les genêts sauvages, au bord de l'océan.
J'écrivais ton nom sur les plages, sur les murs des villages, les nuits de la Saint-Jean. Je t'attendais comme un rivage, quand un bateau naufrage au cœur de l'ouragan. Je t'attendais,
je t'attendais,
je t'attendais. Et les églises se souviennent des prénoms de baptême des mariés de Vendée.
Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes dans Page après page avec Gisèle et vous êtes bien sûr sur l'antenne de Radio Galaxie. Et vous venez d'entendre une chanson déjà ancienne, Les Mariés de Vendée, c'est de Didier Barbelivien. Cette chanson a été choisie par notre invité qui aujourd'hui est Patrick Cojol. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un auteur, vous êtes d'origine ariégeoise d'ailleurs, pas très loin de Rieux.
Oui, d'Aumazan-sur-Arize.
Mais vous êtes... bon auteur, j'ai envie de dire, du terroir, mais vraiment un auteur que j'aime bien parce que justement, vous nous faites vivre des choses peut-être qu'on ne sait pas toujours. Pourquoi vous avez choisi cette chanson, justement ?
Ah ben, j'ai choisi Le Marié de Vendée en corrélation avec le livre dont on va parler aujourd'hui, Au nom du roi, et qui se passe pour l'essentiel en Vendée et à Paris, à l'époque de la Terreur, 1793-1794.
Ce livre est paru aux éditions La Bouinotte, paru d'ailleurs assez récemment, en octobre 2019. Parfait. On aurait dû en parler plus tôt, mais confinement oblige, nous avons un petit peu de retard dans nos émissions de page après page. Au nom du roi, ce n'est pas un policier, bien que moi j'ai trouvé des traces.
Absolument.
Vous avez changé complètement de style avec ce livre. La grande histoire. Pourquoi la grande histoire ?
Alors, j'ai voulu... vous savez, il y a quelqu'un a dit un jour, l'histoire, ce n'est jamais que des histoires. Et donc, là, j'ai voulu parler de cette grande histoire qui est la Révolution française et plus particulièrement la Terreur, précisément pour faire comprendre aux gens à quel point aussi il y a des mensonges d'État et des mensonges de la République. Et en ce qui concerne les guerres de Vendée, ça n'est un, puisque là, la République a mis sa propre poussière sous le tapis depuis des décennies. Elle a commis la République un massacre, ce qu'on appelle un massacre de masse. Je ne reprends pas le terme génocide, parce qu'il est, il est controversé, et ce n'est pas une question de gêne à proprement parler, mais ça a été un massacre de masse de cette population vendéenne. Je pense que voilà, on va en parler.
Ça a été difficile pour vous justement de changer de registre comme ça. Comment vous en êtes venu justement à avoir cette idée-là ?
Pas du tout. J'aime bien faire ce que je veux. J'aime bien changer de style. J'aime pas me laisser enfermer. Toute ma famille est pyrénéenne, ariégeoise ou des Hautes-Pyrénées, mais j'avais une grand-mère qui était vendéenne et qui m'avait dit qu'on avait un ancêtre qui avait combattu dans les armées dites royalistes. Et ben, un petit peu un hommage à ma grand-mère. Et à cette... Donc j'ai voulu travailler un petit peu sur cette période-là, que je ne connaissais pas, que personne, pas grand monde ne connaît. Et je me suis fait plaisir et j'espère que je restitue ce plaisir un petit peu au travers du livre. Vous savez, à l'école, j'ai toujours appris une chose, c'est que les Vendéens ou les Chouans, comme on dit vulgairement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose déjà, étaient des royalistes. Bon, ils étaient pour le roi, donc c'était des rétrogrades. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a appris à l'école de la République. Et en fait, ça n'a rien à voir. Ils étaient effectivement royalistes parce qu'ils étaient et ils sont toujours, c'est une région de France qui est toujours très croyante, et le roi tenant son pouvoir de Dieu, effectivement, ils étaient très attachés au roi. Ils se sont révoltés fin 93, le roi était déjà parti, mais la révolution avait déjà 4 ans. C'est pas la révolution en soi qui les a embêtés, c'est autre chose, c'est-à-dire que évidemment c'était une région française qui était essentiellement agricole, et qu'il n'y avait plus un seul enfant pour travailler les terres et pour soutenir les familles, puisqu'ils étaient tous partis dans l'est de la France pour combattre aux frontières, et qu'il y en avait un tiers qui mourait en route, un tiers qui mourait au combat, et le dernier tiers qui mourait dans les hôpitaux. Il n'y avait pas un gamin qui revenait. Vous ajoutez à ça le joug un petit peu religieux qui est avec les prêtres réfractaires, donc fonctionnarisés entre guillemets, qu'on leur a imposé, et vous avez là la cocotte minute qui est prête à exploser, ce qui s'est passé.
En effet, oui. C'est bien comme ça aussi que je l'ai voilà, interprété. On est en 1793. Qu'est-ce qui vous a donc inspiré pour ce roman historique ? C'est donc, vous le disiez, vos racines, simplement.
Oui.
La curiosité, peut-être la quête de la vérité ou pas ?
Oui, alors oui, un peu de ça. J'ai voulu un petit peu travailler sur les racines qui sont celles de ma grand-mère, effectivement, retrouver un petit peu les traces, marcher dans les empreintes de cet ancêtre, et puis aussi essayer de découvrir l'histoire par le petit côté de la lorgnette. Et j'ai travaillé beaucoup sur des documents d'archives, et bien sûr, sur des mémoires d'anciens généraux vendéens, voire républicains. Et je me suis fait mon idée, et puis j'ai essayé de tisser une toile sur un fait très très peu connu. Moi, j'aime bien l'histoire, mais je ne connaissais pas cette action-là, que les nazis n'auraient pas renié. Enfin, il y a eu des abominations terrifiantes. C'est un petit peu tout ça que j'ai essayé de dénoncer.
Et tout ça, vous l'avez fait en 279 pages. C'est 279 pages haletantes. J'avoue si. Que j'ai eu de mal à laisser parfois ce livre parce que j'avais autre chose à faire et qu'il fallait absolument que... J'avais du mal à le laisser. Je voulais toujours connaître la suite, puisque moi aussi, j'ai fait ce voyage, j'ai fait cette mission avec Étienne et on va en parler... sans trop en dire, en tout cas, je ne voudrais pas trop en dire là, en ce début de page après page. Comment est-ce que vous avez réagi en apprenant tous ces moments historiques? Parce que tout le long du livre, il y a des choses que personne ne sait finalement. Dans l'histoire, je parle.
Voilà, pas grand monde. Moi qui aime bien l'histoire, qui suis un historien amateur, un amateur d'histoire plutôt, je ne les connaissais pas. Donc je les ai apprises et ça m'a tellement paru à la fois abject et intéressant. Mm-hmm. Donc j'ai voulu restituer tout ça. Et après, vous savez, je ne me fais plus trop d'illusions sur l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Mais,
je veux bien le croire.
Voilà, mais dans certaines circonstances. Mais j'ai voulu justement que les gens connaissent un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Oui. Et qu'ils le sachent aussi par le biais de mon héros, qui est un petit chirurgien, mais qui n'est pas du tout un bout en guerre, qui part à la guerre parce que tout le monde y va, quoi. Donc il suit.
Il faut bien la faire, cette guerre, finalement.
Ouais, mais il est pris lui aussi dans un contexte. Tous ses parents, toute la famille, tout le monde se réunit. Il y a le tocsin. C'est tout un peuple. Il peut pas se singulariser. Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un de bien. Mais il va pas prendre des armes pour massacrer Pierre, Paul ou Jacques ou parce qu'il veut défendre absolument le roi ou une certaine caste. Pas du tout. Il suit un peu. Et puis il découvre des choses qui sont assez horribles.
En effet, c'est vrai, et on va voir que le pauvre, il va vivre une drôle de période. Qui est-il justement, Étienne Fèvre?
C'est un petit chirurgien local, donc de la Tessoile, qui est une commune à la limite entre l'Anjou et la Vendée. Et un jour, devant chez lui, devant l'église d'une réunion où le prêtre de la commune, le prêtre donc nommé par l'État, qui se retrouve un petit peu pris à partie par la population, tout le monde s'en va, tout le monde se réunit et tout le monde part pour Cholet, qui est à une vingtaine de kilomètres de là. Et c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, souvent dépenaillés, pieds nus, armés de faux retournés, de bâtons ferrés, qui se précipitent sur la ville. Il y a 30 000 personnes, c'est quand même énorme, et qui vont essayer de reprendre la ville de Cholet.
Monsieur de Bonchamp, ce général de son état, qui est-il, lui? Côté roi ou côté...
Non, il est côté roi. C'était un très, très grand chef vendéen. Malheureusement pour les Vendéens, il est mort rapidement à la bataille, justement, des suites de ses blessures à la bataille de Cholet. C'était un très, très grand général qui passait très, très bien auprès de ses hommes et qui était d'une grande compétence. Il faut savoir aussi une chose, c'est que même ceux qui ne s'intéressent pas beaucoup à l'histoire connaissent par exemple Charette ou Jean-Roch Jacquelin, etc. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de nobles qui étaient des chefs vendéens pour la bonne et simple raison que c'était les seuls à avoir fait le service militaire. Comme ils savaient, ils étaient censés savoir se battre, les gens qui effectivement étaient des paysans leur ont fait confiance, ont dit lui sait se battre, on va le prendre. Oui. Et parfois, je sais que même François de Charette, qui Dieu sait pourtant est célèbre aujourd'hui, au départ il voulait pas y aller. Parce que mettez-vous à la place d'un noble qui a son château, qui a ses terres, il a plus à perdre qu'à gagner.
Ah, tout à fait, je comprends.
Donc au départ ils ont été très 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 rétifs, très très réticents, et puis devant la masse qui se soulevait, ils ont bien obligé, eux aussi ils ont été obligés de suivre.
Et oui. La Vendée, vous la connaissez, vous y êtes allé?
Alors j'y suis allé deux fois pour des salons du livre, et là je vais y revenir bientôt, mais c'est une région, oui, que j'aime bien.
Oui, parce que quand vous en parlez, on dirait que vous connaissez vraiment bien le terrain, vous en parlez, mais comme si on y était.
Voilà, mais je connais l'histoire de la Vendée. Après, Cholet, j'y suis allé une ou deux fois, pas davantage. Oui. Voilà. Donc, je n'ai plus de famille là-bas. Mais puis, c'est important aussi pour un auteur d'aller sur place pour prendre le climat, le pouls du livre qu'on va faire.
Oui, c'est justement ça qui fait le vivant de l'histoire d'un auteur qui écrit un livre, quelle que soit l'histoire.
Ça peut y contribuer. Oui. Effectivement, ça peut y contribuer. Après, il n'y a pas que ça. Il y a l'imagination, il y a l'écriture, il y a tout. Mais oui, bien sûr, ça ne peut qu'aider.
Je cite « Quand la mort est en crue, elle assèche les cœurs ». J'ai trouvé cette phrase magnifique. Elle est de vous ou peut-être vous en avez entendu parler?
Non, c'est de moi.
Bravo.
Mais vous savez, j'ai toujours des relents de poésie qui viennent. Et j'étais quand l'amour est en crue, j'essaye toujours de trouver le contre-pied. Donc l'amour est en crue, la crue, et puis hop, j'assèche.
Mais elle est vraiment bien à propos en plus. Je la trouve magnifique. Voilà. Elle est forte et en plus, elle image bien. Elle est similaire un petit peu des situations que vous nous faites vivre dans ce livre. Est-ce que ça, c'est encore peut-être aussi un réflexe du policier que vous avez été ?
Oui.
De par les situations que vous avez déjà vécues, oui. Moi, il m'a semblé que peut-être vous aviez...
Moi aussi, elle m'a semblé appropriée. Et puis, vous savez, je vous l'ai déjà dit, quand on écrit, on ne maîtrise pas tout non plus. Donc, il y a des fois, je suis avec mon stylo à la bouche, et puis là, je démarre une phrase, et poum, ça arrive, je note, et puis après, je la remets le lendemain dans le contexte. Je n'y réfléchis pas, en fait, pas plus que ça, quoi.
D'accord. Et quand vous relisez votre livre, est-ce que là, vous vous apercevez de l'importance de cette phrase « Quand l'amour est en crue, elle assèche les cœurs ».
Non, pas vraiment.
C'est important, quoi. C'est fort.
Ouais, pas vraiment. Permettez une petite digression, là. Oui. Un jour, j'étais à un salon et je suis tombé sur une dame qui m'a dit, c'était sur un polar, qui m'a dit « Monsieur, j'ai mis une phrase de vous sur mon frigo ». Et alors, je dis « Qu'est-ce que vous avez mis de moi ?» Alors, dans un polar, j'avais mis « Le Père Noël, personne n'y croit, mais tout le monde sait quel jour il passe. Le malheur, c'est l'inverse. » Vous voyez ? Et ça, elle avait trouvé la phrase superbe, mais ça m'est venu, en fait, comme ça, c'est... Il y a des fois, je note. Vous savez, on note tous.
Oui.
On a tous... Dans chaque livre que je prends une feuille blanche et ploum, bon, bon. Mais après, pour répondre directement à votre question, non. Et puis, l'importance que vous accordez, vous, à cette phrase, peut-être qu'une autre personne va accorder d'importance à une autre phrase.
Oui, tout à fait. Ça, j'en suis certaine. Mais celle-là, moi, dans le contexte où elle est vraiment bien faite et bien placée, quoi. Bravo.
Merci.
À la page 75, vous faites un tableau de la Révolution. Et là aussi, c'est toujours pareil, quoi. C'est tellement bien écrit, tellement bien réel, qu'on sent la dureté de ce moment-là. On sent aussi ce vent qui est froid et humide. On sent le froid de l'hiver, puisque ça se passe aussi en hiver. On sent le bestial de l'homme. On sent aussi toute cette haine qu'il y a. Mais on sent aussi, et d'ailleurs vous le dites, que cette situation-là, c'est le paradis du diable. C'est magnifique, encore une fois, c'est toujours bien, bien mis et bien placé, quoi.
Oui, mais j'essaye toujours de prendre le contre-pied parfois au mot.
Oui.
Et qu'est-ce qui est contre le diable ? Qu'est-ce qui est l'opposé du diable ? Quelque part, c'est Dieu et le paradis. Donc, c'est vrai que c'était une époque dramatique et diabolique aussi, quoi, parce que si un monde partait, un autre arrivait, et tout ce qui avait fait les structures, les bases d'une civilisation, tout était foulé aux pieds. Tout était foulé aux pieds. Les tympans des églises. Ils ont été évidemment tous martelés, toutes les chasubles, tous les objets sacerdotaux, ben on s'en servait pour boire du vin, il y avait des bœufs qui travaillaient aux Tuileries, il y a des gens qui faisaient l'amour dans les églises, enfin, c'était vraiment une, je dirais, l'anarchie au sens le plus vil du terme, quoi.
Mm-hmm.
C'est ce climat. Ah, parce que bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une partie effectivement du roman, la première qui est en Vendée, et ensuite bon, les circonstances de l'enquête de mon héros le conduisent à Paris.
Oui.
Voilà, le conduisent à Paris.
On va y venir.
Voilà, et c'est donc à Paris qui se rend compte de tout ça, et là j'essaye de faire une description la plus exhaustive que j'ai pu avoir. J'ai retrouvé des vieux grimoires sur Gallica, sur Internet, des journaux des années 1793, 14, 15, 16, où il y avait des descriptions de journaux de l'époque, hein, Le Rougif, etc. Et tout ça, j'essaye que le lecteur soit en prise constante avec la réalité de ce moment-là, quoi. Mm-hmm. C'est tout. Je fais ça voilà, humblement, mais avec le plus d'exactitude possible.
Nous, actuellement français, vivant aujourd'hui en 2020, on est issus finalement de cette révolution. Est-ce que d'après vous, l'homme tire les leçons du passé ? Personnellement, j'ai l'impression que non.
Non, moi non plus. Moi non plus, parce que peut-être que... Non, c'est toujours la soif du pouvoir, c'est toujours la quête de... C'est même pas forcément l'argent. L'argent, oui, mais l'argent n'est qu'une forme de puissance. Mais la puissance maximale, c'est le pouvoir d'une bourgeoisie et de gens qui ont voulu le prendre et qui ont voulu désinstitutionnaliser un ancien régime et prendre la place.
Ouais. Cette guerre de Vendée, est-ce qu'elle était perdue d'avance parce qu'il n'y avait pas de chef, finalement, de chef, il n'y avait pas d'ordre, ou alors est-ce que c'était tout simplement une bêtise humaine, parce que partir à la guerre sans chef ou sans commandant qui commande vraiment,
c'était, on parle de guerre de Vendée, guerre au pluriel, puisque ça s'est passé en plusieurs fois, mais c'est plus à la limite une guérilla, parce qu'ils ont essayé de se structurer. On l'a vu plus proche de nous, on l'a vu pareil en Espagne, en 36, on l'a vu, c'est pareil. Mm-hmm. Il y a toute une partie de la population qui s'est soulevée. Il y avait quelques chefs aussi, il y avait quelques généraux aussi, intelligents, compétents, mais il n'y avait pas d'être entre guillemets chef premier, de chef unique. Et donc, vous savez ce que c'est, vous parlez de l'homme, de généraux à généraux, il y avait parfois des jalousies, les uns n'obéissaient pas à l'autre, et chacun dans son camp avait ses compétences, mais chacun avait aussi tendance à vouloir tirer la couverture à soi. Mmh.
Donc, Étienne, on l'a dit, il a fait son chemin, il arrive à Paris, et nous sommes à la page 99, et alors à Paris, bien sûr, il est étonné, parce que sorti de sa Vendée, Paris fourmille de vie, de surprise aussi, parce que là, on y retrouve l'Église. Est-ce qu'il est vrai, est-ce que ce vieil adage est vrai, qu'il n'y a que près de la cheminée où il fait bon?
Ah, il y a près de la cheminée qu'il fait bon.
Quand j'ai vu que Étienne retrouvait ce prêtre qu'il avait connu et en qui il avait une grande confiance aveugle, finalement, le prêtre, lui, s'est rapproché de ses intérêts aussi.
Exactement. Voilà, mais le prêtre qu'il retrouve alors qu'il le croyait disparu au sens le plus mauvais du terme, le prêtre se sert de lui aussi, parce que le prêtre, en tant qu'homme, il est lui aussi représentant d'un clergé. Et il le dit lui-même, à un moment donné, moi en tant que prêtre, je ne suis rien. Et je préfère vivre pour servir le clergé, pour servir Dieu. Oui, c'est ce qu'il dit, on en pense ce qu'on en pense, mais c'est ce qu'il dit. Et il continue à vivre et il se sert effectivement quelque part d'Étienne, dans lequel qu'il a connu et en qui il a confiance. Et il s'en sert pour une mission plus ou moins perdue d'avance.
Mm-hmm. On va parler un petit peu, puisqu'on est à Paris, on va y rester un petit peu. Vous parlez aussi de la veuve. Est-ce que c'était un spectacle pour le Parisien, ça, la veuve?
Absolument. Absolument.
Moi, j'ai du mal à imaginer. C'est
la veuve, donc la guillotine.
Ah, donc, voilà, j'ai eu du mal à imaginer la population venant, tricotant, cousant, discutant. Attendant le spectacle.
Exactement. Et tout le monde, les femmes cousaient, elles attendaient. Oui. Donc, je parle d'une chanson qui s'appelait à l'époque « Rendez-moi ma potence, rendez-moi ma potence de bois ». Les gens étaient rouspétés après la veuve, après la guillotine. Parce que le gars, il montait, et hop, il mettait la tête, et puis c'était fini. Tandis que l'autre côté, il gesticulait, on le voyait, il était plus haut parfois, et donc il y avait du spectacle. Là, c'était le spectacle, c'était trop rapide. Ah oui, mais c'était comme ça. Tous les gens venaient. Et je vais avoir une petite digression, moi, qui c'est plus cet intérieur, mais c'était au XIVe siècle sur Toulouse, pareil, hein, quand il y avait des gens au gibet qui étaient, en fonction des faits qu'ils avaient commis, qui étaient pendus, brûlés ou autres, mais ça rassemblait des centaines de personnes. Et croyez-moi, il y avait même des repas qui étaient faits après. C'est pas les mungetades de l'époque, mais c'était pas loin. Non, mais c'était une forme de réunion, et la veuve, sous la Terreur, il y a eu tellement de personnes qui ont été guillotinées, mais Gisèle, on est en 93, mais si je me souviens bien, dans les années, c'était 1820-1830, avant qu'il y ait eu les circonstances atteignantes, moi je me souviens d'une femme qui avait tué son mari en Comminges, du côté d'Aurignac, qu'elle a été exécutée. Parfois, les gens allaient sur Toulouse, parfois, ils les exécutaient sur place, justement pour donner l'exemple aux gens du coin, quoi. Et quand elle a été exécutée donc sur Aurignac, mais il y avait déjà, alors, les gens venaient de toutes les campagnes, il y en avait qui montaient sur les toits pour voir le spectacle. Et c'est pas, vous voyez, c'était en 1830, c'était il y a 170 ans, quoi.
C'est incroyable, quand j'ai lu ça, moi j'ai halluciné, quoi.
Ouais.
On va faire une petite pause musicale. Vous nous avez choisi une belle chanson également, c'est Serge Reggiani. Vous avez choisi pourquoi ?
Maximilien. Donc, j'ai choisi Maximilien parce que ça parle de Maximilien de Robespierre, et qui là aussi est un mensonge de l'histoire parce qu'il est considéré comme un sale type, comme un tyran, et c'est pas forcément le cas.
Et s'il était mort sur la croix, l'être suprême en qui je crois, s'il était le Père et le Fils, si le bon Dieu des ci-devant passait dans le soleil levant, quand le bourreau fait son office, et si les prêtres réfractaires avaient seuls compris les mystères, si c'était vrai leurs oraisons. Le doute parfois est plus solide que la foi, et si le doute avait raison. Ainsi pensait Maximilien dans la charrette du silence, avant que le couteau s'élance, les mains non joints sous les liens. Si l'enfant vertueux d'Arras était né de la même race que Danton, son frère corrompu, si j'avais obéi à la soif du pouvoir comme Attila, en croyant faire ce que j'ai pu, si la commune et la terreur avaient été moins qu'une erreur, un crime ou un péché l'orgueil, et si les rois, les Girondins venaient fouler avec dédain mon cimetière sans cercueil. Ainsi pensait Maximilien, un instant avant le silence, avant que le couteau s'élance, les mains non jointes sous les liens. Et si le peuple souverain, le peuple pur au cœur d'airain, n'était pas ce que dit Rousseau, et si mon âme se trompait, s'il y avait des petits capets dans les ruelles et les ruisseaux, si la colère et la vertu qui m'ont conduit et qui me tuent n'étaient pas de l'humanité, si à l'heure où la vie défile, j'apercevais Fouquet-Tinville me reprochant mes vérités. Ainsi pensait Maximilien, un soupir avant le silence, avant que le couteau s'élance, les mains non jointes sous les liens.
Quel plaisir. Merci Patrick de nous avoir fait écouter Serge Reggiani. C'était un plaisir de retrouver cette belle voix. On écoute page après page et nous sommes toujours en compagnie, donc je le disais, de Patrick Aujol. Vous nous présentez votre roman historique « Au nom du roi ». C'est paru aux éditions La Bouinotte. Pourquoi est-ce que vous avez écrit « roi » en vieux français ? Parce que c'était peut-être le langage d'alors ?
Oui, aussi, mais d'une manière tout à fait beaucoup, mais alors beaucoup plus prosaïque. C'est que quelqu'un a fait un film un jour qui s'appelle Au nom du roi.
Oui, tout à fait.
Voilà, mais oui. Je n'ai pas le droit, si vous voulez, de recopier exactement le même titre. Donc c'est pour ça que j'ai mis Y aussi.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Mais en attendant, c'est vrai qu'à l'époque, on écrivait le roi.
Ah oui, bien
comme
sûr.
Vous l'avez écrit avec un Y.
Absolument, oui. Tout à fait.
Vous parlez de l'abbé Rengenot. Qui est-il, lui ?
C'est un prêtre qui, à la base, était donc sur la Tessoile, qui a disparu. Tout le monde pense, en fait, qu'il a été exilé, voire guillotiné. Et en fait, il est parti à Paris. Il est parti se réfugier dans la capitale, auprès de certains milieux. Il a continué donc à œuvrer pour Dieu et pour la cause du clergé.
Mais à un moment, quand même, je me suis demandé si vraiment il servait vraiment... On va laisser le doute et on va laisser les lecteurs se démêler avec
exactement.
Ça.
Exactement. Non, mais il y a en chaque personnage, il y a une part d'ombre.
Oui.
Il y a une part de mystère. Personne n'est blanc, personne n'est noir, en fonction des circonstances, en fonction des gens qu'on rencontre. Vous savez, on se rend compte qu'on peut... Une personne comme vous, comme moi, en fonction d'une petite circonstance, d'une rencontre, on peut très vite basculer. Moi, je l'ai vu dans la police. Hein. Il y a pas que des tueurs en série. Hein. Il peut y avoir des meurtriers qui ont la même éducation que vous et que moi. Ça peut aller très vite. Et là, en fonction, je vous dis, des circonstances, il joue un rôle. Mm-hmm. Il joue un rôle. Et c'est ce qu'il dit parfois. Il vaut mieux des petites morts que des grandes défaites.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai aussi.
Et oui, mais voilà, pour un prêtre...
Oui, c'est vrai.
Mais...
Et puis, il allait dans des endroits où on... C'est vraiment le dernier endroit où on s'attendrait à voir un prêtre, quand même.
Mais... Tout à fait. Quoique, il y a eu des circonstances, mais là, on n'est pas là pour en parler. Mais en fait, là je, quand même, je lui rends au départ,
oui,
la première fois,
tout à
voilà,
fait.
Il n'y a pas été de son plein gré.
Oui.
Voilà.
En effet, on va parler de cette mission. Moi, je vais essayer de garder le plus possible le secret qu'il y a dans ce livre. Après, vous, si vous voulez en parler, vous faites comme vous voulez. Donc, on va parler de cette mission. Vous l'avez menée comme une enquête ou pas? En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Étienne fait finalement sa petite enquête.
Mais bien sûr, il fait une enquête parce que sur son lit de mort, donc le général de Bonchamp lui apprend qu'il y a énormément de corps qui disparaissent. Et des corps qui sont récupérés par les troupes républicaines, par les Bleus, et ils se demandent vraiment ce que les républicains font de toutes ces dépouilles. On pense aux vêtements, on peut penser au trafic d'organes, on peut penser aux cheveux, on peut penser à beaucoup de choses. Hein. Les nazis ont été experts en la matière aussi. Et donc il va essayer de comprendre, ça va être un petit peu sa quête.
Mmh. Étienne est aussi couvert d'une autre mission, en fait il en mène deux de front. Cette autre mission, elle est peut-être aussi difficile que la première à mener finalement. Cette mission, elle a été entravée par d'autres personnes. Est-ce que l'intérêt était qu'elle ne se fasse pas, cette deuxième mission, le
oui.
fait d'aller en Suisse?
Oui, bien sûr. Donc il part en Suisse pour récupérer quelqu'un. Et effectivement, il y a des gens qui essayent de contrecarrer ce projet. Il y a, oui, un peu de lutte, un peu de quelques gros soucis qui se passent durant le trajet. Mais effectivement, on s'apercevra derrière que par-delà le côté militaire, parfois, il y a toujours le côté politique et le côté un petit peu ambivalent, malfaisant, de gens qui essayent de jouer sur deux ou trois tableaux.
Mmh. En effet. Justement, pour faire ce voyage-là, vous y avez tout mis. Il y a le guet-apens, il y a le meurtre, le qui-vive. Par contre, ce que j'ai trouvé beau et grand, c'est que Étienne, tous ces meurtres, toutes ces choses qui vont de travers, ça ne lui correspond pas. Est-ce que dans son fort à lui, est-ce que ça dépasse son entendement?
Je pense que oui. C'est un chirurgien, donc il est là pour soigner les corps. Il est jeune, mais en fait, il subit, quoi. C'est aussi une victime, quoi. Il a envie d'aider, mais il subit. Tout à l'heure, il ne maîtrise pas tout. Il ne maîtrise pas tout par le biais des journées. Chaque journée, à cette période-là, était différente. Il arrivait des événements tous les jours, des rencontres tous les jours. Et il n'était qu'un petit Vendéen qui essayait de mener sa quête comme il le pouvait. Mais il a subi et ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas.
Oui.
Oui, non, je disais aussi qu'il allait faire deux rencontres féminines.
Tout
voilà.
à fait. Voilà. Justement, on va en parler, Jeanne Robin. Mm-hmm. Est-ce que c'est un personnage vrai ou est-ce que c'est un personnage que vous avez inventé pour les besoins du
livre ? Non, elle a véritablement existé.
Oui.
Il y a eu très peu de femmes qui ont combattu parmi les troupes vendéennes pour la simple et bonne raison, c'est qu'on leur interdisait. Et là, c'était l'ancien régime qui les interdisait parce qu'il fallait garder la femme à un certain rang d'infériorité.
Oui.
Donc à partir du moment où elle combattait, où elle était l'égale de l'homme, c'était très mal vu. Mais quelques-unes, dont Jeanne Robin l'ont fait. Elles se coupaient les cheveux, elles se rasaient, elles avaient suffisamment de personnalité pour le faire, et elle existait, oui. Mm-hmm. Il y en a eu quelques-unes qui sont restées célèbres.
Et cet agent qui était abricot, elle, c'était une femme aussi, finalement, elle faisait aussi sa petite guerre.
Oui, mais absolument.
C'était un pilier aussi.
C'était un pilier. Et
elle, voilà, elle a vraiment existé ou c'était pour le besoin du roman ?
Alors, donc, j'ai créé cette jeune fille qui est une prostituée. Elle a le prénom, en fait, de ma grand-mère.
Oui.
Et qu'elle me pardonne. et en fait, donc, j'ai trouvé l'histoire. Ça, c'est trois. J'ai trouvé ça dans les archives d'une célèbre dame maquerelle de ce siècle-là, du 18e, où elle donnait à choisir, effectivement, parfois entre pomme, poire et abricot, qui étaient des surnoms ou de jeunes filles.
Voilà. D'accord, je comprends un petit peu mieux. La peste blanche, c'est aussi la tuberculose, cas, vous le dites vraiment dans le... Est-ce qu'elle sévissait énormément en ce temps-là ? Est-ce qu'il y avait beaucoup, justement,
Pas énormément, mais effectivement, il y a le fils de Louis XVI qui en a été atteint, et d'autres aussi, bien évidemment. Mais donc, j'ai voulu parler de ça, cette entrée dans... Là, il y a un côté quand même un petit peu légendaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit peu légendaire. J'ai pensé que ça pouvait permettre, pas d'enjoliver, mais de continuer le roman et d'apprendre pas mal de choses.
Tout à fait. Mais en tout cas, c'est bien à propos encore, parce que quand on voit la vie qui y était menée, on peut comprendre que ça peut en découler aussi. On est à la page 220, vous faites philosopher Étienne sur l'injustice. Est-ce qu'on pourrait croire que le monde aurait pu comprendre finalement cette situation ? Ou alors, est-ce que c'est l'histoire qui se répète inlassablement ?
Malheureusement, je crois que c'est l'histoire souvent qui, avec des moyens différents, des hommes différents, c'est sûr, mais qui malheureusement se répète depuis la nuit des temps.
Depuis que le monde est monde.
Oui, mais c'est, je pense que l'homme ne prend pas la mesure de ses exactions et de ce qu'il pourrait ne pas faire. Voilà.
Oui.
Mais bon.
Sauver le roi, vrai ou pas ? Ou c'était pour le besoin, encore une fois, de l'écriture ?
Sauver le roi, il voulait sauver le roi, oui. Après, là, en ce qui concerne ce que je mets, là, c'est une légende. Ça a été dit de cette manière-là. Oui. Là, je pense que c'est une légende. Bien sûr, il faut savoir que le roi a essayé, évidemment, et tout le monde le sait, a essayé de s'évader. Il aurait même pu, à la limite, partir à un moment donné, on lui avait même proposé, c'est lui-même qui n'avait pas voulu. Il a essayé de partir en dernier recours, donc à la fuite que l'on connaît à Varennes, qui a échoué, mais on lui avait proposé avant, il n'avait jamais voulu. Ce garçon n'était pas un tortionnaire, Louis XVI n'était pas un tortionnaire du tout, mais il était fait pour être roi comme moi je suis fait pour être moine, vous voyez ce que je veux dire. Donc il s'intéressait aux serrures, il s'intéressait à tout, c'était un scientifique, il aimait beaucoup les sciences, il s'intéressait beaucoup aux bateaux, aux découvertes, mais alors le royaume, il avait laissé ça à d'autres et je pense qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire à un moment donné, il a été mal aidé.
Bon, on découvre l'horreur que vous... Je ne sais pas si vous voulez en parler, moi...
Non, je vais pas en parler. Ce que je peux dire, parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui ont été faites, c'est... Je ne vais pas dévoiler la trame du livre, mais il y a quand même des choses horribles, notamment ces corps de femmes qu'il faisait brûler sur des grilles, sur des bras zéro, tout simplement. En fait, il les faisait fondre, et sous les braises, donc sous les grilles, il mettait des bidons, et il récupérait la graisse et il s'en servait ensuite dans les hôpitaux. C'est une graisse de très bonne qualité, paraît-il. Et ça a véritablement existé, oui. Tout ce que je mets dans le livre a existé, de même que les cœurs des rois de France. Donc lorsque leurs tombeaux ont été pillés, certains ont récupéré les cœurs et les ont vendus à des peintres pour que les peintres en pigmentent leur tableau. Pour que ça les rende beaucoup plus chers, avec une qualité, une peinture différente. Et il y a deux siècles.
Là, franchement, c'est vrai que on est un peu abasourdi quand on lit à mesure de ces pages.
Je n'invente rien, je le répète. Et la trame du livre avec la destination de ces corps est tout à fait exacte.
À moi, ça m'a laissé... Mais bouche bée, quoi.
Alors, ça avait été fait avant, aussi, il faut le savoir. Ça avait été fait, je crois que les Mésopotamiens l'avaient fait, ça avait été fait. Mais ça avait Mais ça n'avait pas une ampleur. Là, même si moi j'ai un peu forcé le trait, en toute honnêteté, en institutionnalisant un peu la chose, mais ça a été fait à plusieurs endroits. Mm-hmm. Il y a eu des familles, on fait, je n'en dirai pas davantage,
mais
l'horreur dans certains cas était absolue.
Surtout que finalement, c'était vraiment pour la bêtise de la haute sphère, quoi.
Oui.
Alors justement, les hautes sphères politiques, finalement, elles sont fourbes, elles manœuvrent, l'histoire est toujours l'histoire, et qu'est-ce qui fait que ces hommes pourtant instruits, puisqu'ils ont fait quand même de l'école, ils ont un niveau d'instruction pour l'époque, et même peut-être dans des époques plus avancées, ils font des études pour être quand même... finalement pouvoir commander et pouvoir dire aux autres attention, ça c'est pas bien, on le fait pas, et finalement ils sont avaricieux, asociaux, égoïstes, individualistes, et ils oublient. Alors ça, moi, ça m'a laissé pantoise.
Oui, et puis il y a beaucoup de factions, parce que chaque faction, chaque parti, comme on dirait aujourd'hui, chaque parti a ses têtes d'affiche. Donc celui qui a une idée, mais dont l'idée se trouve propulsée par quelqu'un de brillantissime, et qui se retrouve le numéro 2, il n'a pas envie d'être le numéro 2. Donc il se dit, je vais essayer de le contrer, et de devenir le numéro 1, créant mon propre parti. C'est ce qu'on appelle les factions, les partis politiques. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on divise, pour essayer de mieux régner, et c'est comme ça qu'on divise pour essayer de se faire connaître et de se monter en épingle. Oui. Ça, c'est vieux comme le pouvoir, et c'est le vizir qui veut prendre la place du calife.
Oui.
Tout simplement.
Étienne continue cette petite enquête, et enfin, il trouve la réponse. Et alors, cette réponse, c'est l'atrocité même. Et donc, moi, je voudrais... Voilà. Pour ma part, je ne veux pas la dire, parce que c'est, quand on la découvre dans le livre, c'est trop fort. Je voudrais laisser les lecteurs la découvrir par eux-mêmes en lisant ce livre « Au nom du roi ». C'est de vous, Patrick Cojol, aux éditions La Bouinotte. Comment est-ce que Étienne, justement, a soutenu cette vérité? Comment est-ce qu'il l'a reçue?
Il l'a reçue comme une horreur supplémentaire. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé à Paris, évidemment, il est arrivé... pour beaucoup à pied, un petit peu à cheval, et là, sur la route, il a tellement vu d'horreur. Vous savez, on s'habitue malheureusement à tout. Hein. Et là, bien sûr qu'il a mal pris, surtout en tant que chirurgien. Mais c'était une horreur de plus, une abomination de plus, qu'il a essayé de dénoncer, qu'il a essayé ensuite de ramener en quelque sorte en Vendée pour que cette abomination soit connue de tous. Et là, il revient en Vendée, et là, il décide de... plus ou moins de se battre, effectivement, avec les hommes qui sont les siens.
Est-ce que c'est pour les besoins du livre que Étienne retrouve Jeanne?
Oui. Il hésite, donc, il hésite entre une prostituée qui lui amène beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'amour sur un certain plan, et une autre qui ne lui amène pas beaucoup d'amour, qui lui amène du combat, qui lui amène certainement du malheur, ce qu'il devine très bien, mais qui a une telle puissance, une telle dignité, qui en fait, il revient vers elle, quoi. Ça revient vers les racines.
Oui.
Mais je voudrais dire, on a parlé des hommes politiques tout à l'heure, il y a quelques hommes politiques quand même à la Révolution qui étaient quand même très, 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 très honnêtes. Hein. Il y en avait quand même qui y croyaient. Danton était pourri, vous savez, il l'appelait le faisandé à l'époque.
Oui.
Donc c'était un pourri absolu.
Oui.
Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup de rues Danton, alors que des rues Robespierre, il y en a beaucoup moins, alors que Robespierre était d'une honnêteté scrupuleuse. Et vous avez des gens qui s'appelaient Barnave, Vergniaud, qui ont vraiment pas connu du tout, qui, eux, étaient honnêtes. Un qui était une horreur absolue, d'ailleurs, je le dis parce qu'il est d'ici, il est du coin, il était de Pamiers, c'était Vadier, qui était un sombre individu, un fou furieux, si vous me permettez l'expression.
Oui.
Vraiment quelqu'un de... Je crois qu'un jour, il y avait un ami à lui qui lui avait fait un procès. Cet ami avait gagné son procès avec l'avocat. Il a fait, plus tard, qu'est-ce qu'il a été au pouvoir, il a fait arrêter les deux, il les a fait guillotiner tous les deux.
Donc, ah, carrément.
Ah oui, oui, ah, non, non, mais ça, pardonne. Non, non, c'était un sombre individu. Mais il y en avait quelques-uns, dont Robespierre, que je défends parfois, parce que ce n'est pas l'ignoble individu. Robespierre qui n'a rien fait en Vendée, qui n'était pas l'homme à tuer tout le monde, qui était avocat, qui était croyant, et qui avait quand même une grande rectitude.
Ouais.
Trop peut-être, ça, qu'il soit trop rigide, ça c'est possible. Mais il était tout sauf malhonnête.
Oui. Est-ce que Jeanne a raison quand elle dit que les Bleus ne sont pas des hommes, justement, pour toutes ces atrocités qu'ils font?
Oui, elle a forcément qu'elle a raison. Après, On les appelle les bleus, mais c'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a eu des atrocités dans tous les camps. L'exaction, l'horreur appelle l'horreur. Moi, j'ai l'exemple qui m'arrive en tête de Vendéens qui étripaient certains bleus, qui leur mettaient de la paille enflammée dans le ventre.
Oui, ça aussi, c'est, ça m'a...
C'est sympathique. Voilà, on en clouait aussi aux ailes des moulins. On les clouait aux ailes des moulins.
Oui.
Voilà.
Comment se sent Étienne quand il a découvert le devenir des corps qu'il voyait partir par charreté entière? Parce que là, ça dépasse le...
Voilà, c'est des charniers comme on a pu avoir après avec les nazis, et tout ça, ça partait par charreté entière, effectivement. Et il est obligé de... Il fallait qu'il comprenne, quoi. En fait, il fallait qu'il sache. Il sentait que quelque part, ça... Oui, sa vie était là, dans le savoir, dans tout ce qu'il allait pouvoir glaner, découvrir. Il percevait que c'était l'horreur qui était derrière, mais il fallait qu'il suive, au péril de sa vie, il fallait qu'il suive, précisément pour comprendre et ensuite pour restituer.
Mmh. Dans ces 279 pages que vous nous avez mis dans ce « Au nom du roi », vous dites que la guerre, c'est quand même 170 000 Vendéens qui ont été tués pendant la Révolution. Que penser justement de cette guerre? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu servir à quelque chose pour le futur,
oui,
de l'époque?
C'était, je vous dis tout à l'heure, massacre de masse. La République avait créé 7 colonnes infernales. C'était donc 7 petites armées qui se croisaient, se recroisaient et massacraient tout. C'était des viols. Voilà. Ils ne laissaient rien. No man's land. Ils brûlaient, pillaient, violaient, faisaient tuer, tout. C'était... Il fallait que ce soit une terre aride qui n'y ait plus rien. Mmh. Et Barère, qui était un député des Hautes-Pyrénées, l'avait dit lui-même, il faut détruire la Vendée. Quoi.
Carrément.
Ah oui, il faut détruire la Vendée. C'est ce qu'il avait dit. Il l'a dit à la tribune, il faut détruire la Vendée. Il ne supportait pas qu'il y ait un contre-pouvoir. Après, il n'y a pas qu'en Vendée que les gens se sont révoltés. Hein. Il y a eu des révoltes à Lyon, il y en a eu aussi des royalistes à Toulouse, il y en a eu à Bordeaux. Mais c'est vrai que c'est là-bas qu'elle a été la plus puissante. Et puis aussi, on est en bordure de mer.
Et oui.
Voilà, donc ça y fait aussi. Et toutes ces régions vraiment, qui étaient extrêmement croyantes.
Mmh. Pourquoi vous avez fait mourir Jeanne? Est-ce qu'elle est morte vraiment? Ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas voulu qu'elle revienne et qu'elle vive, qu'elle s'installe avec Étienne et que la
non,
vie continue?
Voilà, je lui ai fait...
Parce que le pauvre Étienne, il est malheureux.
Là, il est malheureux à la fin, il est malheureux, mais c'est peut-être... Le malheur, parfois, est un tremplin à une histoire peut-être supplémentaire et à une nouvelle vie. Mm-hmm. Donc, effectivement, je la fais mourir. Voilà, je ne sais pas dans quelles circonstances cette brave dame est décédée, si elle est décédée dans son lit ou au combat. Mais mm-hmm. Alors, juste une petite histoire pour là. Figurez-vous qu'il y a 15 jours, j'ai reçu un mail d'un gars qui fait la généalogie et qui m'a dit « Monsieur, nous sommes cousins au 5e degré, précisément par ce monsieur fièvre. » Et donc, j'ai retrouvé, il m'a envoyé des documents d'époque sur ce gars-là, que je ne connaissais absolument pas, et j'ai su avec quel lieutenant il avait combattu, etc. Et le pauvre garçon, lui, a été blessé à la bataille de Cholet, dont je parle dans le livre. Il a été blessé 2 fois aux cuisses, et bon, il s'en est sorti, il est resté vivant, mais il en a souffert toute sa vie, ce qui fait qu'il est mort à 54 ans.
D'accord.
Voilà, il est mort jeune. Mais donc, on apprend...
Tout le temps.
Si vous voulez, le livre est quelque part, et c'est ça qui est fondamental dans l'écriture, le livre est quelque part ne nous appartient plus, une fois qu'on l'a écrit, mm-hmm. et il nous dépasse. C'est-à-dire qu'il nous fait apprendre des choses qu'on n'aurait jamais pensé. On n'en est plus maître, quoi. Et c'est très bien, d'ailleurs.
Je cite à un moment aussi, vous avez écrit « Les Anglais nous trahissent et nous trahiront toujours ». Est-ce que cette phrase est historique ou est-ce que c'est de vous, encore une fois, pour les besoins du roman?
Celle-là, je pense que je l'ai lue dans les mémoires d'un chef vendéen. Je pense qu'il c'était un noble, comme tous les chefs, et les Anglais étaient jaloux de la puissance maritime française. Et puis, effectivement, il y a toujours un antagonisme avec eux. Les Anglais devaient nous aider, les Vendéens devaient débarquer, et ils ne l'ont jamais fait.
Oui. Si Jeanne avait vécu, est-ce qu'Étienne serait reparti au combat ou pas?
Je ne crois pas. Je crois qu'il aurait hésité. Il aurait peut-être fait en sorte qu'elle arrête un petit peu les combats parce qu'il savait où ça allait mener. Mm-hmm. Et je crois qu'il avait envie d'être autre chose. Je vous dis, c'est pas Stallone, c'est pas Schwarzenegger. Non, il y est parce qu'il faut y être. Et il fait en sorte de de sauver les siens, de savoir. Mais s'il peut sauver les gens qu'il aime et lui-même, il le fait, oui. C'est pas un tueur dans l'âme.
D'accord. Voilà. Mais Patrick, merci beaucoup pour ce roman historique. Alors, merci. Bien sûr, on ne parle pas de ce fameux secret.
Ah non, on dirait.
On le laisse découvrir à nos auditeurs et j'espère qu'ils auront la même réaction que moi quand j'y suis arrivée. J'ai été vraiment bouche bée, ébahie. On n'arrive pas à comprendre, quoi, parce que c'est tellement atroce.
Ce qui est certain, c'est qu'on apprend beaucoup dans ce livre.
Tout à fait.
Et on apprend là des choses qu'on n'apprend pas forcément dans les manuels d'histoire.
Voilà,
donc
c'est
ce que j'ai voulu dire aussi. Quoi.
Très bons moments d'histoire, historique, que justement, comme vous le disiez, on n'en parle pas ou tellement peu. Est-ce que c'est vrai, et là vous allez me dire si j'ai raison ou pas, est-il vrai que les gens font l'histoire, mais qu'un seul homme écrit l'histoire ? Et donc, tout n'est pas forcément dit.
Oui.
Est-ce que c'est aussi ça ? Peut-être les dessous de l'histoire, ce qu'on dit dessous de l'histoire ?
Mais bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'histoire, ce n'est jamais que des histoires. Ce sont des histoires, ensuite on l'écrit. Elle est écrite par quelques-uns, effectivement. Et de toute manière, elle est orientée. Elle est orientée par le pouvoir et pour le pouvoir. Par un parti, par la bourgeoisie, par la Convention, par les Républicains, par ce que vous voulez. Mais on fait porter à l'histoire des vêtements qu'elle ne porte pas naturellement. C'est
d'accord.
Certain. Ah oui, mais c'est...
Là, on en a la preuve.
Et ce, à toutes les époques.
À toutes les époques, c'est vrai.
Il ne faut pas se leurrer. Hein.
Tout à fait.
Et souvent, celui qui dit la vérité, comme disait l'autre, hein, il faut
l'exécuter.
il faut l'exécuter, oui.
Et oui.
Aujourd'hui, les lanceurs d'ordre, c'est un peu ça aussi. Hein.
Tout à fait. Tout à fait.
Voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Patrick, pour ce livre. Franchement, je ne l'oublierai pas, ce livre.
Puis si les gens donc, sont intéressés, ils peuvent ou vous téléphoner ou envoyer un mail à Radio Galaxy.
Oui, tout à fait.
Qui me transmettra. Sinon, il est en vente, je pense, toujours à Domazan.
Oui.
Donc, au tabac presse de Domazan.
Oui. Aux éditions, bien sûr.
Je peux me faire le relais. Donc, ils vous écrivent et je serai récepteur ensuite de leur commande éventuelle.
Très bien. En tout cas, moi, de ce que je ressors de Étienne, c'est cette humilité qui transparaît sur toutes les pages. Et à chaque page, il y a cet homme est très humble, très homme, comme on doit l'être, comme on devrait l'être tous. Est-ce que vous pensez que ce roman est lu par les jeunes ?
J'espère au moins que... Je sais que les gens sont très terroirs. J'espère au moins qu'il est... Je sais qu'il démarre pas mal en Vendée. J'ai eu des bonnes critiques parce que j'ai été en Vendée. Alors croyez-moi, deux siècles, on l'a dit tout à l'heure, c'est très court. Et la mémoire collective vendéenne, elle est toujours présente.
Ah.
Oui. Donc, dès qu'on parle de cette histoire-là, il faut savoir ce qu'on dit. Au même titre, vous savez, au même titre que les cathares chez nous...
Tout à fait.
Voilà.
Je faisais le rapprochement dans ma tête.
On s'en souvient toujours, et rien ne se perd. Je ne sais pas si vous connaissez bien sûr le prénom Amaury.
Oui.
Bon, est-ce que vous savez qu'en occitan, c'est une insulte ?
Ah, tout à fait.
Voilà.
Vous parlez à une occitane convaincue.
Bon, ok. Donc, voilà. Donc, ça
Amaury.
C'est un Amaury. Exactement. Bon, donc, comme quoi, rien ne se perd. Là-bas, en Vendée, il faut savoir ce qu'on dit et ça a été... j'ai voulu parler d'eux et j'ai dit des choses qui ne se disent pas forcément dans d'autres livres.
Magnifique. Merci en tout cas de
beaucoup.
Nous avoir fait ce très beau livre. Il y en a un prochain, j'espère.
Il y en a un prochain. Alors, j'ai fait un livre sur la Haute-Garonne et sur les grandes affaires criminelles ou autres de la Haute-Garonne dont nous pourrons peut-être parler
à
la rentrée.
Oui.
Voilà, mais ça, ce n'est pas un roman. Et ensuite, je viens de terminer un roman qui se passera donc au Venezuela, qui sera en lien avec les laboratoires pharmaceutiques. Mais maintenant, il faut que je le présente à un éditeur.
On attend,
moi aussi.
Mais page après page, encore dû devenir. Merci beaucoup, Patrick. Continuez longtemps à écrire pour votre plaisir peut-être, mais surtout pour le nôtre, pour notre plaisir de lire. Je vous laisse le mot de la fin. Il y a une musique. Vous allez nous dire pourquoi ce choix.
J'ai voulu parler. parlé de effectivement d'un opéra rock des années 70 qui s'appelle La Révolution française, où il y avait une partie qui s'appelait Choix en avant. Là aussi, une petite chose, c'est que dans le livre, je parle beaucoup des Vendéens, puisque
oui,
c'était l'armée.
C'est vrai.
Il n'y a jamais le mot Chouan, puisque les Chouans, d'abord, c'était en Bretagne. C'était déjà un peu plus haut. Et puis, ils étaient un petit peu considérés comme des brigands, puisque Chouan, c'est la contraction de Chat-Huan.
Oui.
Mais c'était plus des brigands. L'armée Vendéenne, c'était l'armée Vendéenne. Ça n'a rien à voir avec les Chouans.
Oui.
Il faut faire les distinguos entre les deux.
Oui, là, voilà. C'est vraiment
la révolution
en Vendée.
Et c'est les troupes vendéennes, c'était celles qui étaient structurées. Après, il y a eu des Chouans qui sont effectivement battus en Bretagne pour le roi, mais c'était surtout de la guérilla.
Mm-hmm.
Là, c'était vraiment les troupes vendéennes qui ont essayé de se structurer sous l'effet de quelques généraux, de quelques nobles.
Oui. Aux éditions labouinotte.org d'ailleurs, si on veut vraiment chercher. Et donc, c'est un roman historique de vous, Patrick Cojolle, Au nom du roi. Et je répète que roi, c'est écrit en vieux français, c'est-à-dire R-O-Y.
C'est
merci beaucoup, à bientôt, Patrick.
Merci Gisèle, au revoir.
Depuis le temps que Paris impose sa loi à ceux du Nord ou du Midi qui n'en veulent pas, leur maudite révolution ne leur suffit pas. S'ils tuent la reine comme le roi, on va leur faire payer ça. Jour en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant, en avant, Chouan. Chouan, en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant, en avant, Chouan. Nous abattrons Robespierre, l'odieux tyran, roulant ce loup sanguinaire dans son propre sang. Je dis que la République n'en a plus pour longtemps. Nous aurons un nouveau roi et nous ramènerons la foi. Chouan en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant, en avant, Chouan. Chouan en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant, en avant, Chouan. Chouan en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant, en avant, Chouan. Chouan en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant, en avant, Chouan. Cœur battant, en avant, Chouan.
C'était Page après Page, une rencontre intimiste avec un auteur.